Donc on va prendre maintenant la parole de Dieu dans Galates chapitre 5, versets 22 et 23. Je relis, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Et la loi n'est pas contre ces choses. Donc nous voulons considérer ce soir, c'est ce second aspect du fruit de l'esprit qui est la joie. Alors la joie, comme l'amour, hein, c'est quelque chose que l'on utilise, enfin, en tout cas le mot hein, que l'on utilise beaucoup dans notre environnement, dans notre monde. Et je crois que tout le monde a envie d'être joyeux. Hein. Il y a même, j'ai vu qu'il y a même des endroits où on vous apprend ce qu'il faut faire pour être joyeux en 10 leçons, en 20 leçons. Il y a des gens qui étudient le cerveau pour savoir quelles sont les parties qui permettent d'être joyeux. Mais qu'est-ce que la joie? Donc en regardant la définition dans le dictionnaire, il est dit ceci, c'est un sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par la plénitude et par sa plénitude et sa durée limitée. Et c'est un sentiment qui est éprouvé par quelqu'un dont une aspiration ou un désir est satisfait ou est en voie d'être satisfait. Donc la joie ici, hein, elle est mise en corrélation un peu avec la satisfaction de désir ou peut-être la perspective même que cette satisfaction va bientôt arriver. Et donc pour la plupart des gens, la joie est intimement liée, on pourrait dire, aux circonstances. Et donc les hommes, souvent, pour avoir plus de joie, font des efforts pour changer leurs circonstances et essayent d'avoir des expériences qui peuvent améliorer leurs circonstances. Mais la joie, je crois, touche plus que simplement l'émotion. Il y a une partie d'émotion dans la joie, de sentiments aussi, mais c'est beaucoup plus que cela. Je crois que c'est un état d'esprit, une attitude, une disposition que l'on a à l'égard de réalités matérielles ou même réalités aussi spirituelles. Et quand on regarde l'Écriture, eh bien, on voit qu'il est question de joie partout dans l'Écriture. Et le temps nous manquerait pour souligner à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament toutes les références à la joie. Mais ce qu'on peut souligner, peut-être on peut essayer de voir quelques aspects de la joie ici. Premièrement, c'est qu'on voit bien dans l'Écriture que, comme pour l'amour d'ailleurs, comme Timothée nous l'a montré mardi soir, que Dieu est la source de la joie. Puisque la joie est le fruit du Saint-Esprit, eh bien c'est que Dieu est la source, on pourrait dire, de la joie. Et en psaume 34, nous lisons versets 5 ou 6, nous lisons ceci. « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. » Autrement dit, voilà, le cœur qui se tourne vers Dieu véritablement reçoit de lui la joie et son visage, est-il dit, ne se couvre point de honte. L'épître aux Romains, l'apôtre Paul dit ceci, il dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Donc c'est Dieu, c'est lui qui est la source et il remplit, il est capable de remplir les Romains de toute joie et de toute paix dans la foi. Il dit pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Donc on voit clairement ici dans ce passage que c'est Dieu qui remplit de toute joie, qu'il est la source donc de toute joie. Et notez ici que l'apôtre Paul dit qu'il le fait par la puissance du Saint-Esprit, hein, Romains chapitre 15 et au verset 13, nous lisons ceci. Donc, Dieu est la source de la joie. D'ailleurs, la Bible présente Dieu comme un Dieu qui se réjouit. Il est joyeux, il se réjouit. Par exemple, il se réjouit dans le livre du prophète Jérémie de son œuvre de rédemption. On pourrait dire qu'il s'est réjoui de son œuvre de création hein, quand il a dit, quand on dit Dieu vit que tout était bon. Hein. Et il se réjouit aussi de son œuvre de rédemption dans Jérémie chapitre 32, ici, et au verset 34 jusqu'à 41, il dit « Je ferai avec eux une alliance, je lis un extrait, hein, « Je ferai avec eux une alliance, éternel, et je ne me retirerai point d'auprès d'eux pour leur faire du bien, et je mettrai ma crainte dans leur cœur pour qu'ils ne se retirent pas de moi. » Donc Dieu parle de ce qu'il va faire à l'égard de ce peuple lui-même, ce qu'il va mettre dans le cœur de ce peuple pour que ce peuple se tourne vers lui. Il dit « Et je me réjouirai en eux pour leur faire du bien. » Vous voyez, Dieu se réjouit de son œuvre de rédemption. Il dit « Et je me réjouirai en eux pour leur faire du bien, et je les planterai dans ce pays en vérité de tout mon cœur et de toute mon âme. » C'est Dieu qui parle ainsi. Et Dieu se réjouit aussi de l'obéissance. Rappelez-vous quand on a vu le prophète Agé, lorsqu'il parle au peuple et qu'il exhorte le peuple à reprendre la construction du temple, eh bien Dieu donne ce message à Agé. Il dit au peuple, « Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison, et j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. » Donc Dieu est un Dieu qui se réjouit de son œuvre de rédemption et se réjouit de l'obéissance. Et aussi dans le Nouveau Testament, rappelez-vous dans la parabole du fils prodigue, eh bien, Luc nous dit ceci, hein, que de même, il dit ici, hein, « Je vous dis, il y a de la joie, Luc 15, 10, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Dieu se réjouit de la repentance aussi des hommes. C'est une joie qu'il y a devant les anges. Donc ce ne sont pas les anges qui se réjouissent, ils sont devant une joie qui est exprimée. Et on peut penser ici que c'est le Dieu trinitaire qui se réjouit parce qu'il y a un seul pécheur sur la terre qui se repent. Donc Dieu est la source de la joie, Dieu se réjouit, mais Dieu est aussi l'objet de la joie. Quand on lit l'Écriture, on voit que Dieu est l'objet de la joie. C'est vers lui, normalement, que vont les expressions de joie. Et l'Écriture donc montre vraiment que la véritable joie est une joie qui a Dieu comme objet principal. Alors bien sûr, il peut y avoir des causes secondaires à la joie, mais la cause principale, c'est Dieu. Psaume 118, verset 24, il dit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Ô Éternel, accorde le salut, ô Éternel, donne la prospérité. Donc on voit ici, Dieu donne des choses à son peuple, la prospérité, le salut, une belle journée. Et le peuple dit, c'est aujourd'hui la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Donc tout ce que Dieu donne à son peuple des choses. Il y a multitude de bénédictions dans l'Ancien Testament, notamment, par lesquelles Dieu bénissait son peuple. Et c'était pour eux l'occasion de se tourner vers Dieu et de lui rendre grâce et d'exprimer leur joie, de se réjouir par ce que Dieu leur a donné. Mais Psaume 32, verset 11 dit juste « Réjouissez-vous en l'Éternel !» Pas simplement « Réjouissez-vous », mais « Réjouissez-vous en l'Éternel !» « Soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur !» Et encore, on voit encore là que l'Éternel est l'objet de la joie. C'est vers l'Éternel que le peuple et tous ceux qui ont le cœur droit sont exhortés à se tourner pour se réjouir. Et pensez à Marie, hein, dans le Nouveau Testament, dans son cantique, dans son expression d'adoration, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Elle est l'objet d'une grâce particulière, il va se passer des choses extraordinaires dans sa vie, et elle n'est pas focalisée juste sur ce qui va se passer. Son âme se tourne dans la joie vers Dieu, et elle dit ainsi, « Mon esprit et mon âme se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Et un dernier exemple avec l'apôtre Paul dans Philippiens, lorsqu'il reçoit ce don de la part des Philippiens au chapitre 4, il est dans la joie, vous voyez, mais il dit ceci, il dit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. » Alors, il a reçu ce que l'Église a envoyé, mais vous voyez, son cœur, il est dans la joie, il remercie les Philippiens, mais il dit que sa joie est dans le Seigneur, et il est heureux qu'ils aient pu le faire, mais l'expression, l'objet de sa joie, c'est Dieu, c'est le Seigneur. Donc Dieu est aussi l'objet de la joie. Et en lisant l'Écriture, on voit aussi que la joie est étroitement liée, la joie est étroitement liée au salut ici. Le Saint-Esprit applique le salut dans la vie du croyant, on va dire. Et donc le fruit qu'il produit est intimement lié au salut. La joie est intimement liée au salut. La joie est donc une caractéristique, on pourrait dire, du chrétien, et donc une caractéristique du salut. Un chrétien non joyeux, c'est un non-sens. Et quelqu'un disait qu'un chrétien qui est non joyeux, c'est un chrétien qui pêche, parce que, on va voir tout à l'heure, mais on est exhorté aussi dans la Bible à être joyeux. Quelqu'un d'autre a dit, la joie est fille de la grâce. Donc celui qui est l'objet de la grâce de Dieu a, et qui reçoit l'Esprit de Dieu, doit avoir un cœur qui se réjouit dans le Seigneur. Et donc on lit dans le Nouveau Testament, par exemple, beaucoup d'exemples de personnes qui ont accueilli l'Évangile, qui se sont tournées vers Dieu pour leur salut, et tout de suite, peut-être la première l'une des premières manifestations qu'il y avait dans leur vie, c'était la joie. C'était la joie. Peut-être qu'ils n'ont pas encore l'occasion de manifester l'amour parce qu'il n'y a pas de monde à côté d'eux, mais la joie est ce qui ressort et qui est la marque qu'ils ont l'Esprit de Dieu en eux. Alors, pensez aux croyants de l'Église primitive. En Actes chapitre 2 et au verset 46, il est dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus dans le temple, ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Et quand on lit l'histoire de l'Église primitive, je crois qu'on ne peut pas rater qu'il y avait une joie qui était là, qui remplissait le cœur de ces hommes et de ces femmes. Mais pensez aussi à l'eunuque éthiopien. Lorsque Philippe vient le voir, lui annonce l'Évangile, il reçoit l'Évangile, il se fait baptiser, et la Bible dit que l'Esprit emmène Philippe, et puis tandis que l'eunuque, il continue sa route joyeux. Il est dans la joie. À Antioche, lorsque l'apôtre Paul prêche l'évangile, eh bien, on voit que des personnes se convertissent et la Bible dit, acte 13 et au verset 56, je ne vais pas noter celui-ci, mais acte 13, verset 56, 52, je crois. Acte 13 et au verset 52, je vais vous lire. Il dit, Paul et Barnabas, voilà, secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds parce qu'il y avait une persécution qui s'installait et ils allèrent à Icône tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Voilà l'association de la joie et du Saint-Esprit pour des disciples qui, tout fraîchement au Seigneur, les gens qui viennent de se tourner vers Dieu. Donc il y a une joie qui se manifeste dans leur cœur. Et puis, en 1 Thessaloniciens 1, verset 6, l'apôtre Paul parle des Thessaloniciens, il dit, vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec, il dit, la joie du Saint-Esprit. Vous voyez ici, il dit donc que les Thessaloniciens ont reçu la parole avec la joie du Saint-Esprit. La tribulation était là, la difficulté était là, mais par l'Esprit de Dieu, ils ont exprimé de la joie. Donc la joie chrétienne, on le voit ici, ne repose pas seulement sur des sentiments subjectifs, c'est-à-dire des choses qui dépendent de la personne, de comment la personne reçoit, de son tempérament, de sa personnalité, mais elle repose sur une réalité objective qui est en dehors de soi. Et cette réalité-là, c'est l'œuvre du salut de Dieu qui est accomplie par Jésus-Christ et qui est appliqué dans la vie du croyant par le Saint-Esprit. Et c'est sur cela que repose la joie du croyant. Souvenez-vous de ces 70 disciples qui sont partis, que Jésus avait envoyés et qu'il leur avait donné le pouvoir de faire des miracles, de chasser des démons, etc. Et ils reviennent et ils disent à Jésus, Seigneur, les démons même nous sont soumis. En Luc chapitre 10, verset 17. Et rappelez-vous la réponse de Jésus, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire, dit-il. Cependant, Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Et donc Jésus affirme qu'il y a une joie plus importante encore que celle que vous pouvez ressentir à cause des manifestations spectaculaires. La joie du salut, celle de savoir que les noms sont écrits par Dieu dans les cieux. Et Jésus dit que là doit être la joie du chrétien, non pas dans ses compétences, non pas dans le succès du ministère que Dieu lui a confié, mais dans le fait que son nom est écrit dans les cieux. Et c'est sur cette réalité qu'il faut fonder, bien sûr, sa joie, et non sur le ressenti d'un succès ou d'une défaite. La joie de l'esprit, c'est donc la joie du salut. Et l'apôtre Pierre a juste cité ce passage dans 1 Pierre chapitre 1, versets 3 à 6, parle de cette espérance vivante qu'a le croyant, de cet héritage qui lui est réservé dans les cieux. Il parle à des croyants qui sont persécutés, qui souffrent, et il leur dit, à la fin de ce passage, verset 6, il dit « C'est là ce qui fait votre joie. » Il parle donc de toute cette espérance qu'il y a, il dit « Là, c'est là ce qui fait votre joie, bien qu'il le faut, bien que pour l'instant vous êtes persécutés, vous souffrez, vous êtes au milieu des épreuves. » Et donc, il dit « C'est pas à ces épreuves du temps présent qu'il faut regarder, mais il faut regarder au salut et à l'espérance, à l'héritage que vous avez en Jésus-Christ. » Donc la joie est intimement liée au salut. Et puis, dernière chose que je vais souligner ici, c'est que la joie est aussi un devoir pour le chrétien. Alors, bien sûr, Dieu est la source de la joie, Dieu est l'objet de notre joie. La joie dans la Bible, on le voit, est intimement liée au salut. Mais le chrétien, dans l'Écriture, est amené à un devoir, le devoir de se réjouir. Il y a des impératifs à la joie. On pourrait dire, tiens, mais si c'est le Saint-Esprit qui le produit, pourquoi est-ce que moi, je dois faire des efforts? Pourquoi est-ce que je suis commandé d'être joyeux? Eh bien, c'est ainsi, hein, Dieu a prévu que le Saint-Esprit produise la joie et en même temps, le croyant doit aussi faire des efforts et se réjouir dans les choses que Dieu lui accorde. C'est la même chose que Paul dit quand il dit aux Philippiens, travaillez à votre salut, d'accord, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Hein. Il y a à la fois les deux ici, l'esprit, le fruit de l'esprit, c'est la joie, mais le chrétien est amené à se réjouir et à être joyeux. Donc, je vous lis deux versets, 1 Thessaloniciens 5, 16, soyez toujours joyeux, c'est précis. Et puis Philippiens 4, 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Et donc, on pourrait dire ici que ne pas être joyeux, c'est une désobéissance. Un chrétien qui n'est pas joyeux, il désobéit au commandement de Dieu. Un chrétien qui ne fait pas sa joie du salut, des choses de la parole de Dieu lui-même, est un chrétien qui désobéit. Donc, se réjouir, c'est avant tout une question d'obéissance et non pas d'émotion ou de sentiment. Obéir, c'est avant tout une question d'obéissance. C'est un commandement qui est donné ici. Le monde d'aujourd'hui vit sous l'émotion. On parle toujours d'émotion ou de choses que l'on peut ressentir, mais l'appel à l'émotion est un appel à réagir plutôt qu'à agir. Et ici, ce qui est commandé, c'est d'agir, de se réjouir, quelles que soient les circonstances. On ne va pas prendre le temps de développer tout ça, mais réjouissez-vous toujours, dit-il, dans le Seigneur. Et donc, la joie, se réjouir, est un acte d'obéissance. Jésus fait remarquer la même chose à ses disciples juste avant qu'il aille à la croix. Dans cet entretien qu'il a, le dernier entretien qu'il a avec eux, il dit en Jean chapitre 15, il dit « Je vous ai dit ces choses, il dit plusieurs choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » D'accord ? Et dans les versets précédents, Jésus déclare que son obéissance, on ne va pas prendre le temps de le lire, son obéissance ici est la raison de sa joie. Et il invite donc les disciples à obéir aussi, de manière à ce qu'ils puissent expérimenter cette joie qui est la joie même de Jésus-Christ ici. Et plus tard, dans sa prière, en Jean 17, il dira, à son père, il prie même pour que ses disciples aient la joie. Il dit à son père, maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie. Et donc c'est la volonté de Seigneur Jésus-Christ que les croyants aient la joie de Dieu dans leur cœur et qu'ils y travaillent. La joie de l'esprit est un soutien pour nous. C'est pour ça que nous sommes commandés à être joyeux. Habacuc chapitre 3 versets 17 et 18. Vous vous rappelez, Dieu annonce le désastre et Habacuc dit ceci, il dit « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront plus de nourriture, les brebis disparaîtront des pâturages et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. » Et il ajoute « Toutefois, je veux me réjouir dans l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Voilà. Donc il dit, et il exprime ici que malgré tout ce désastre qu'il peut avoir autour de lui, toute cette crise qu'il y aura, cette douleur, cette souffrance qu'il y aura, il veut se focaliser, il veut obéir et se tourner, obliger son être à se tourner vers Dieu et à se réjouir en l'Éternel et dans le Dieu de son salut. Donc la joie dans les circonstances difficiles est un commandement parce que c'est aussi un témoignage. Rappelez-vous, Actes chapitre 16, apôtre Paul et Silas, avec les chaînes aux pieds, chantent des cantiques dans la prison. C'est l'expression de leur joie dans le Seigneur. Et cela a été un témoignage formidable que les prisonniers ont entendu et qui a amené aussi la repentance du geôlier. Et voilà, donc nous devons travailler aussi à notre joie, nous réjouir de tout ce que Dieu nous donne, du salut que Dieu nous donne. Prendre l'épître aux Philippiens, regardez pourquoi l'apôtre Paul était joyeux. Il parle de l'Église, il parle des Philippiens, il parle de sa situation, il parle de son désir de connaître Christ. Et toutes ces choses le rendaient profondément joyeux. Nous avons de quoi être joyeux quand nous lisons ces choses. Que celui qui est dans la joie, qui dit... chante des cantiques. Et c'est ce que l'apôtre Paul a fait, parce qu'il était dans la joie, dans sa prison, à chanter des cantiques. On voit qu'il a obéi au commandement de Dieu et ce que cela a apporté. Et je termine en citant un homme qui dit ceci, il dit que dans le calendrier des pécheurs, c'est-à-dire le calendrier que l'on a chez nous accroché au mur, il n'y a que quelques jours dans l'année marqués comme jours de fête. Mais chaque jour du calendrier chrétien est marqué par la main de Dieu comme un jour de réjouissance. Donc aujourd'hui, c'est aujourd'hui la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Et c'est l'Esprit Saint qui produit cette joie, ou cette joie que nous allons connaître dans le royaume de Dieu, puisque l'apôtre Paul dit que le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger, dans le boire, mais dans la justice, dans la paix et dans la joie par le Saint-Esprit. Romains chapitre 14, verset 17. Et puis Jude dit ceci, et c'est notre verset de conclusion, « Or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître dans sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, dans la joie, Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. » Et donc louons ce Dieu qui nous fera un jour aussi paraître irréprochable, et dans la joie et l'allégresse. Il nous a déjà donné ici même son esprit pour que nous puissions expérimenter cette joie qui sera aussi la nôtre quand nous serons aussi avec lui. Prions. Oui, notre Dieu, nous te remercions encore pour ta parole et pour l'œuvre de ton esprit dans nos vies. Merci pour la joie qui est la nôtre, la joie de te connaître, la joie de savoir que nos noms sont écrits dans les cieux, la joie de savoir que tu es toujours avec nous, que malgré les difficultés que nous pouvons traverser, nous avons la certitude que tu nous as réservé un héritage dans les cieux et qu'il est gardé par la puissance de Dieu. Merci encore pour toutes ces choses qui sont les nôtres. Merci pour la joie que tu nous donnes de pouvoir être avec des frères et sœurs, de pouvoir avoir une église où nous pouvons apprendre à te connaître. Merci Seigneur pour la joie que tu nous donnes dans nos foyers, dans nos familles. Seigneur, nous te remercions parce que toutes choses viennent de toi et nous voulons apprendre à nous réjouir de tout ce que tu nous accordes. Donne-nous des cœurs tournés vers toi, des cœurs dans le contentement, et que chaque jour qui vient, Seigneur, nous puissions être attentifs et voir combien tu es présent, combien tu es puissant et combien nous avons tout sujet de te rendre gloire dans la joie. Que tu agisses dans nos cœurs pour que par ton esprit, cet aspect du fruit de l'esprit puisse grandir et mûrir dans nos vies à la gloire de ton nom. Amen.